Voix de service avec Christiane Campagna.
Rebonjour tout le monde. Toujours Christiane Campagna avec vous en ce matin du 29 septembre 2015 pour les voix de service. Nous allons nous remettre à nos quotidiens après toutes ces lectures sur la science et le voyage. Et ce matin, en une du Journal Montréal, une photo compromettante des fonctionnaires suspendus après s'être fait photographier avec un fournisseur, enquête sur des millions de dollars supplémentaires en équipement oublié. À Québec, victoire et bel accueil pour le Canadien. Julie rassure ses fans au sujet de sa perte de poids. C'est vrai, on s'est inquiété sur les médias sociaux le soir des Gémeaux. Et voilà, ça fait le tour de la une du Journal de Montréal. Et dans les pages, on nous annonce que le taux de diplomation est en hausse, mais l'augmentation n'est pas nécessairement liée à l'obtention du diplôme d'études secondaires. Encore cette année, le taux de diplomation est en hausse dans les écoles du Québec, a appris le Journal de Québec. Mais cette hausse ne signifie pas nécessairement que les élèves sont plus nombreux à décrocher leur diplôme d'études secondaires, souligne un expert. Selon les plus récents chiffres obtenus par le journal, la proportion d'élèves qui ont décroché un diplôme, c'est ici qu'une pause change un peu le sens d'une phrase. Hein? Donc, ceux qui ont décroché un diplôme 7 ans après leur entrée au secondaire est maintenant de 77,7 %, un chiffre en hausse constante au cours des dernières années. Égide Royer, professeur en adaptation scolaire à l'Université Laval, rappelle toutefois que le taux de diplomation tel que calculé par le ministère comprend le diplôme d'études secondaires, mais aussi 11 autres diplômes et qualifications pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir terminé son cinquième secondaire. Pour deux d'entre eux, il n'est même pas nécessaire d'avoir réussi la deuxième année du secondaire pour l'obtenir. Comment peut-on accepter comme étant un indicateur de réussite au secondaire le fait que quelqu'un de 18 ans ait un niveau de lecture de quatrième année? C'est ça la question, lance M. Royer. L'an dernier, le taux de diplomation était de 75,8 %, un chiffre qui chute à 71 % lorsqu'on tient compte uniquement du diplôme d'études secondaires. Ce sont d'ailleurs ces autres diplômes, que l'on appelle des qualifications, qui sont responsables de la hausse du taux de diplomation selon un autre document du ministère rendu public au cours de l'été. Et on reste dans l'éducation avec la chronique de Mario Dumont qui nous parle de Couillard et l'éducation. Je n'ai aucun doute que d'un point de vue personnel, Philippe Couillard et le citoyen Philippe Couillard, le père de famille, valorise au plus haut point l'éducation. Diplômé en médecine, homme érudit, je suis certain qu'il vante spontanément les vertus d'un peuple ayant un meilleur niveau d'éducation. Mais, ajoute Mario Dumont, Philippe Couillard, le premier ministre, en arrache en matière d'éducation. Ce forum libéral tenu le week-end dernier sur le thème de l'éducation regroupait des experts intéressants et des idées valables, mais l'exercice n'a pas permis au premier ministre de replacer son gouvernement dans un rôle de leadership. Lors de la dernière élection, le Parti libéral n'avait pas un programme très visionnaire en éducation. La grosse affaire consistait à abolir 500 postes de fonctionnaires dans les directions régionales du ministère. Pas mauvais si l'argent économisé est remis dans les écoles, mais disons que c'est loin d'être une vision complète de l'éducation. Dans la même campagne, le premier ministre défendait les commissions scolaires et les élections scolaires contre vents et marées, un sujet sur lequel il a changé de discours. L'un des premiers gestes de M. Couillard, une fois élu, fut évidemment la formation du Conseil des ministres. Deux docteurs se voyaient à la santé, Barrette et Bolduc. L'éducation est devenue une sorte de prix de consolation pour Yves Bolduc. Ce dernier, qui ne s'était jamais imaginé 30 secondes à l'éducation, a présenté la chose comme un nouveau défi. Vous connaissez la suite. Bolduc est allé d'une misère à l'autre. Sa faible connaissance de l'éducation, additionnée à un côté maladroit, a fait que son autorité ne s'est jamais imposée. Ses plans sont restés à l'état de brouillon. Il est parti comme un coup de vent, rien n'avait été sérieusement accompli dans toute la première année du mandat. En plus, les budgets avaient été significativement coupés dans la foulée des efforts d'élimination du déficit. Pendant que son ministre Bolduc allait de controverse en controverse, le premier ministre a laissé aller. Jamais il ne nous a fait sentir que l'éducation est trop importante pour macérer dans une autre triste improvisation. Finalement, il a fallu que la crise devienne politique et gigantesque pour que Bolduc décide de partir de lui-même. Mario Dumont ajoute, alors que M. Couillard a nommé François Blais, qui semble être un meilleur choix, mais qui a peu d'expérience politique pour ramasser le gâchis. Le pauvre Blais semble passionné par l'éducation, mais dans les opérations, il manque parfois de nerfs, dit Mario Dumont. Cela donne l'impression qu'il aurait besoin d'un chef qui l'appuie fortement au nom de l'importance de l'éducation pour le renforcer comme la super poutre a sauvé le pont Champlain. Demain, nous vivrons une première journée de grève dans beaucoup d'écoles. Des parents inquiets se demanderont à qui faire confiance pour le bien des écoles, au gouvernement, au syndicat d'enseignement. Depuis quelques semaines, dit Mario Dumont, je suis à chaque jour frappée de voir à quel point l'éducation est devenue le talon d'Achille du gouvernement libéral. À ce stade-ci, seul un coup de barre bien senti émanant de l'autorité que représente le premier ministre nous convaincra que la dérive tire à sa fin. Aussi dans les pages du Journal de Montréal, l'utilité à long terme d'Énergie Est analysée. Québec promet une évaluation environnementale rigoureuse du projet de l'oléoduc de TransCanada. Le premier ministre Philippe Couillard a soutenu que son gouvernement allait retenir ce critère lors de l'évaluation environnementale du pipeline durant une mêlée de presse hier en marge de sa participation à la Semaine du climat à New York. M. Couillard réagissait aux propos de l'organisateur du sommet qu'il mettait en garde contre ce type de construction qui ne cadre pas avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce vraiment le meilleur investissement? Lorsque vous analysez l'utilité de ce type d'infrastructure, il ne faut pas seulement penser à aujourd'hui, mais à ce qu'elles serviront à l'avenir. Nous devrons complètement décarboniser notre production d'électricité d'ici 25 ans, a soutenu Mark Enberg lors d'une entrevue avec le Journal de Québec dimanche. Ce dernier se demandait pourquoi on bâtirait une infrastructure gigantesque et coûteuse qui permettrait au contraire une augmentation de production d'énergie fossile. Questionné à savoir s'il allait prendre en compte l'utilité à long terme de ce tuyau de 4600 km, M. Couillard a répondu « bien sûr, bien sûr ». Je le répète, nous ne sommes pas les promoteurs de ce projet, a lancé Philippe Couillard, qui promet une évaluation environnementale rigoureuse. Le Québec s'est fixé des cibles de réduction de GES ambitieuses et souhaite réduire ses émissions de GES de 37,5% sous le niveau de 1990 d'ici 15 ans. Il compte aussi réduire ses émissions de 80 à 95 pour 2050. L'oléoduc Énergie Est transporterait environ 1,1 million de barils de pétrole brut par jour de l'Alberta et de la Saskatchewan vers des raffineries de l'Est du Canada.
La moitié de ta vie se passe au fond de ton divan. Ton regard est vide. Pour toi, je suis invisible. Il y a des jours comme ça, je me dis tout bas. Si je pouvais t'échanger pour un autre, si je pouvais. Essayer, tu n'as jamais ouvert les yeux et je perds mon temps. Je veux voir briller l'or et l'argent. Il y a des choses comme ça, je me dis tout bas. Si je pouvais t'échanger pour un autre, si je pouvais. Et merveille-moi.
André Waters. Alors que je vais vous lire un texte tiré du journal Métro. Il y a une... Elles sont pas toujours, je pense, dans la version papier, mais je ne saurais trop vous recommander les chroniques de Jeff Yates, qu'on appelle aussi l'inspecteur viral. Et aujourd'hui, il nous dit « Gare au mythe du micro-cochon ». La popularité des teacup pigs, ces cochons minuscules qui font sensation sur les réseaux sociaux, mènent à de mauvaises surprises et à des abandons, affirment les spécialistes de l'élevage et du sauvetage des cochons. C'est que ces animaux très en vue donnent l'impression qu'il est possible de posséder un cochon qui est la taille d'un petit chien, comme un poméranien. Or, la réalité est tout autre, écrit Jeff Yates. Un cochon qui reste petit comme ça toute sa vie, c'est impossible, explique Valérie Larose, éleveuse de micro-cochons basée à Shefford, en Montérégie. Un micro-cochon va être adulte à l'âge de 3 ans et il atteindra une taille de 13 à 17 pouces, donc soit 33 à 43 cm de hauteur, et pèsera de 35 à 70 livres. Il aura la taille d'un chien moyen, comme un petit bulldog. M. Larose effectue depuis des années des croisements entre des spécimens pour obtenir le plus petit cochon possible. Madame Larose. Malgré cela, elle ne peut pas garantir que ces cochons resteront beaucoup plus petits que 23 kg. Selon elle, il est possible que certains spécimens restent petits, mais on ne peut pas garantir que leurs porcelets auront une taille similaire. Si les cochons grandissent jusqu'à l'âge de 3 à 4 ans, ils peuvent se reproduire très tôt. Les femelles peuvent s'accoupler dès l'âge de 6 mois, les mâles dès l'âge de 4 mois. Les éleveurs peu scrupuleux exploitent cette particularité en accouplant des porcelets. Lorsqu'un acheteur potentiel demande à ce que son cochon aura l'air à l'âge adulte, l'éleveur lui montre ses minuscules parents. Mais ceux-ci sont eux-mêmes loin d'avoir atteint leur taille maximum, explique Mme Larose. Je dis toujours aux gens, on ne peut pas faire un chihuahua avec un danois. Les cochons ne sont pas conçus pour être minuscules. C'est pas les bonsaïs, c'est pas si vous les taillez régulièrement, ils vont rester petits. les cochons ne sont pas conçus pour être minuscules. C'est les Old Carraborough qui dirigent depuis 2010 Raffield's Retreat, un refuge pour cochons abandonné à St. William's en Ontario, et qui est dégoûté par la popularité des teacup pigs. Au refuge, j'ai 3 cochons qui ont été produits par un soi-disant éleveur de teacup pigs. Le plus petit pèse 150 livres et il n'a que 3 ans. Ça prend une grosse tasse à thé pour que le cochon puisse entrer dedans. D'après elle, beaucoup de gens pensent qu'ils achètent un cochon qui restera de la taille d'un porcelet, puis l'abandonnent lorsqu'il devient trop gros. Par contre, son refuge est à pleine capacité. Madame Burrow affirme recevoir plusieurs appels du Québec. La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, la SPCA de Montréal, lui envoie d'ailleurs des cochons. 5 cas d'abandon de cochons ont été répertoriés à Montréal par la SPCA en 2014. Rappelons que les cochons n'apparaissent pas sur la liste des animaux de compagnie permis par la Ville de Montréal. Et l'amende pour une première infraction peut aller jusqu'à 300 $. Et dans Le Soleil, en fait, c'est l'agence France-Presse qui parle du changement de garde à l'émission américaine, le Daily Show. Le Daily Show maintenant entre les mains de Trevor Noah. Lorsque Jon Stewart a pris en main en 1999 l'émission de la chaîne câblée Comedy Central, pépinière de talents comiques, le Daily Show brillait surtout par son esprit collégien, sans grand recul. Avant de se retirer le 7 août dernier, il en avait fait un avant-poste de la critique du monde politique et des médias. Un show au ton inédit dont l'influence est devenue considérable aux États-Unis et même au-delà. Signe de ce rayonnement, Jon Stewart a reçu pas moins de 7 fois Barack Obama, qui l'a en outre invité par 2 fois pour un entretien privé à la Maison-Blanche. Fox en avait fait un grand scandale d'ailleurs. En 16 ans, il a récolté 23 Emmy Awards. Pour le remplacer, Comedy Central a fait le pari d'un jeune humoriste de 31 ans, Trevor Noah, que beaucoup d'Américains découvriront à cette occasion. Une bonne partie de l'équipe des scénaristes et de producteurs qui entourait son célèbre prédécesseur sera de la partie, gage d'une certaine continuité. Mais comme l'y a invité Jon Stewart lui-même, ce spécialiste du stand-up entend imposer librement sa patte sur l'émission. Il m'a dit « Fais ton émission, fais-en ta meilleure version », a-t-il expliqué au New York Times, louant la sagesse de son prédécesseur, un Yoda juif. Issu d'un couple mixte en Afrique du Sud, né sous l'apartheid, Trevor Noah prévoit notamment d'ouvrir l'horizon du Daily Show, jusqu'ici très américain, même si Jon Stewart était féru de politique étrangère. L'émission reflétera mes centres d'intérêt, mais aussi ceux de l'audience, a-t-il poursuivi. Nous vivons tous aux États-Unis, mais comme l'Amérique l'apprend un peu plus chaque jour, un battement d'ailes de papillon sur les marchés chinois a de bonnes chances d'avoir une influence sur les États-Unis. Le défi est immense pour Trevor Noah, placé dans l'ombre de Jon Stewart, mais aussi devant ses concurrents de talent qui se livrent déjà une bataille sans merci sur le créneau du talk show de deuxième partie de soirée. Jimmy Fallon domine le segment sur NBC devant Stephen Colbert et Jimmy Kimmel, dont les vidéos, en outre, recueillent régulièrement plusieurs millions de vues sur YouTube. Passons maintenant, justement, comme l'annonçait Trevor Noah, on va passer à l'international. On va sortir un petit peu de l'Amérique. Dans la page éditoriale du Devoir, Guy Taillefer écrit au sujet de la Catalogne. Si les élections régionales de dimanche n'ont pas plébiscité le oui en faveur de l'indépendance catalane, il reste que c'est un résultat qui, par son ampleur, impose en toute logique une obligation de dialogue à Madrid. Les urnes ont parlé plus fort que la légalité constitutionnelle. L'intransigeance de Mariano Rajoy, président de l'Espagne et de son parti populaire, héritier du franquisme, est pour beaucoup dans la tournure des événements en Catalogne. C'est la Cour constitutionnelle qui a mis le feu aux poudres en 2010 en désavouant, à la requête du PP, son parti, une partie de la loi sur l'autonomie de la Catalogne que le roi Juan Carlos avait promulguée en 2006. La décision du tribunal rétrécissait la reconnaissance de la Catalogne comme nation en s'attaquant particulièrement aux droits linguistiques de la majorité catalane. Difficile de ne pas faire le parallèle, toutes choses étant égales par ailleurs, avec le combat de la majorité francophone du Québec pour sa survie culturelle et la tendance lourde du Canada anglais à faire l'impasse sur cet enjeu. Les urnes avaient également parlé haut et fort au référendum québécois de 1995. La défaite du oui était bien trop courte pour être balayée sous le tapis. Elle l'a pourtant été, écrit Guy Taillefer. Que l'électorat, écrit-il plus loin, se soit ainsi divisé par le milieu, met en exergue, bien entendu, les déchirements de ce peuple catalan réputé pragmatique. Le message le plus important est cependant ailleurs. Que près de la moitié des électeurs aient voté du côté de la mouvance indépendantiste montre à quel point l'État central est très centralisateur, a développé des problèmes de légitimité. Les Catalans sont depuis très longtemps en colère contre Madrid pour son déni des nationalismes périphériques. Une bonne partie d'entre eux l'est doublement pour la façon dont Madrid a géré la crise économique, de la même manière que l'opposition au programme néolibéral de Londres a constitué un important ressort du mouvement indépendantiste en Écosse, où le non a finalement obtenu 55 % des voix au référendum tenu il y a un peu plus d'un an. Le courroux n'est pas que catalan, du reste, comme en témoigne la popularité croissante du parti Podemos, né du mouvement des indignés. Vu les résultats, le président Rajoy où j'ai évité de tenter une prononciation espagnole qui aurait été tout simplement à côté, pourra continuer de s'en tenir à son discours sur l'indivisibilité. Oh! Voici le mot du jour, le défi. L'indivisibilité du pays. Le partage des voix le conforte mathématiquement dans son refus d'ouvrir la porte à la discussion et son pouvoir de nuisance est important. Mais c'est illogique. En termes économiques, le reste de l'Espagne peut difficilement se passer de la Catalogne comme il s'agit de la région la plus riche du pays, contribuant à 20 % du PIB espagnol. L'ensemble des Espagnols iront aux urnes en décembre prochain. Que le PPP perde le pouvoir, ce qui est concevable, et le nouveau gouvernement ouvrira peut-être les yeux. Un autre article sur l'Espagne que je trouvais éclairant, c'est dans la presse sous la plume de Jean-Thomas Veillé, c'est sous forme de questions-réponses. C'est toujours très instructif et ça résume bien des enjeux. La Catalogne peut-elle déclarer l'indépendance? Réponse, nous avons la majorité qui légitime totalement le fait d'initier le processus de sécession, a déclaré hier le leader de la coalition Ensemble pour le oui, arrivé en tête des élections régionales de la veille. Or, si les deux partis indépendantistes ont obtenu une majorité absolue de sièges, ils n'ont pas obtenu une majorité absolue de voix, ce qui fait dire au professeur Guy Laforêt du département de sciences politiques de l'Université Laval qu'ils n'ont pas la légitimité démocratique pour le faire. Le chercheur catalan Marc Sanjome de l'Université du Québec à Montréal abonde. C'est vrai, les souverainistes ont gagné, mais le gouvernement catalan avait présenté ces élections comme un plébiscite, alors ils ont perdu. Autre question, s'agit-il donc d'un revers pour le mouvement indépendantiste? Au contraire, répond Marc Sanjaume, qui y voit un pas de plus vers une plus grande autonomie de la Catalogne, qui n'a pas de compétences exclusives comme le Québec. Pour la première fois dans l'histoire du nationalisme catalan, il y a une majorité au Parlement en siège qui a le mandat de faire la souveraineté. La Catalogne n'est toutefois pas encore aux portes de son indépendance, prévient-il, traçant un parallèle avec le mouvement souverainiste québécois. Ça ressemble beaucoup plus à l'élection du Parti québécois dans les années 70 qu'au référendum de 1995. J'avoue que j'avais aussi pensé un peu à cette comparaison quand j'ai vu les résultats. Autre question, le gouvernement espagnol maintiendra-t-il la ligne dure? Je ne vais discuter ni de l'unité de l'Espagne ni de la souveraineté, a déclaré hier le chef du gouvernement espagnol, dont l'intransigeance sur la question catalane a contribué à la progression du mouvement indépendantiste, estime l'opposition et un bon nombre d'analystes. Il est coincé par sa propre stratégie, analyse Marc Sanjaume. Il doit se présenter comme une personne dure contre la Catalogne parce qu'il a besoin d'appui dans l'ensemble de l'Espagne pour être réélu. Mais ça l'empêche de proposer quelque chose à la Catalogne. Dernière question, que va-t-il se passer à court terme? Beaucoup de rhétorique, peu d'action, estime le professeur Laforêt, qui croit que le nouveau gouvernement catalan fera preuve d'attentisme jusqu'aux élections espagnoles de décembre. Toujours dans la presse, Richard Etu, collaborateur de la presse aux États-Unis, écrit « Obama et Poutine s'affrontent sur la Syrie ». Tout en critiquant la Russie pour son annexion de la Crimée et son aide aux rebelles ukrainiens, Barack Obama a réservé ses mots les plus durs pour condamner le soutien de Vladimir Poutine à Bachar al-Assad. Selon lui, rien ne justifie l'appui de la Russie à un tel tyran, pas même le prétexte voulant que l'alternative serait pire. L'attaque du président américain survient au moment où les Américains apprennent avec surprise la mise en place par la Russie, la Syrie, l'Iran et l'Irak d'un centre de renseignement pour lutter plus efficacement contre le groupe État islamique. Barack Obama n'a pas fait allusion à cette entente à la tribune de l'ONU, se contentant d'affirmer que les États-Unis sont prêts à travailler avec tous les pays, y compris avec la Russie et l'Iran, pour résoudre le conflit syrien. Mais nous devons reconnaître qu'après tant de sang versé et de carnage, il ne peut y avoir un retour au statu quo d'avant-guerre, a-t-il soutenu. Vladimir Poutine n'a pas accusé son homologue américain de naïveté, mais il s'en est fallu de peu. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec le gouvernement syrien et ses forces armées qui combattent directement le terrorisme, a-t-il déclaré. Et nous devons reconnaître que personne d'autre que les forces armées du président Assad combattent réellement l'État islamique et d'autres organisations terroristes en Syrie. La riposte du président russe se voulait une critique à peine voilée de la stratégie américaine pour détruire le I en Syrie, stratégie qui consistait notamment à entraîner 5000 rebelles dits modérés pour combattre les djihadistes. Un an plus tard, les rebelles formés par les Américains qui combattent en Syrie se comptent sur les doigts d'une main. Tentant de profiter de l'échec américain pour relancer le pays au centre du jeu syrien, Vladimir Poutine a appelé hier à la création d'une large coalition antiterroriste semblable à celle contre Hitler pour lutter contre les djihadistes en Syrie et en Irak. Du côté du climat, Hollande lance un appel pressant aux dirigeants mondiaux. Le président français François Hollande a lancé hier un appel pressant aux dirigeants mondiaux pour qu'ils assurent le succès de la conférence climatique de Paris à la fin de l'année. Dernière chance de sauver la planète, selon lui. Nous devrons à Paris nous poser une seule question. L'humanité est-elle capable de prendre la décision de préserver la vie sur la planète? On peut dire, ça peut être plus tard à une autre conférence. Si ce n'est pas à Paris, ce ne sera pas plus tard. Ce sera trop tard pour le monde, a lancé M. Hollande devant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Toujours en France, des proches de Sarkozy jugés pour détournement de fonds. Plusieurs proches de Nicolas Sarkozy, dont son ex-bras droit Claude Guéant, sont jugés depuis hier à Paris pour des détournements de fonds présumés aux dépens des budgets de la police, à l'époque où l'ancien président français était ministre de l'Intérieur. Cette affaire, dite des primes en liquide, porte sur des versements en espèces touchés en complément de salaire par des membres du cabinet de M. Sarkozy entre 2002 et 2004 qui qui était prélevé sur une enveloppe destinée aux frais d'enquête des policiers. En Afghanistan, les talibans réalisent une première depuis 2001. Pour la première fois depuis la chute de leur régime en 2001, les rebelles talibans contrôlaient hier la majeure partie d'une grande ville afghane, Kunduz, verrou stratégique du nord du pays, infligeant un grave revers au gouvernement afghan en place depuis tout juste un an. Selon plusieurs témoins joints par l'AFP, les habitants fuyaient la ville par centaines face à l'avancée rebelle dans ce carrefour commercial de 300 000 habitants situé sur la route qui relie Kaboul au Tadjikistan. Ceux qui n'avaient pas fui restaient calfeutrés chez eux. Et en Centrafrique, Bangui sous haute tension. Bangui est resté paralysé toute la journée hier par des barricades érigées sur ses principaux axes dans un climat d'extrême tension après un week-end de violences meurtrières accompagné de pillages. Trois manifestants ont été tués et sept blessés à la mi-journée par des tirs de casque bleu de la mission des Nations Unies en Centrafrique, chargée de la protection des abords du palais présidentiel, a indiqué l'AFP à une source hospitalière sous couvert de l'anonymat. Alors, c'est le tour des nouvelles internationales. À 11h, Kevin Breton viendra vous faire les nouvelles du sport et je reviendrai tout de suite après avec les nouvelles régionales.
Bonjour à vous tous, ici Kevin Breton, en relève à Christiane Campagnan. Le temps de vous lire quelques nouvelles sportives. Et dans les quotidiens d'aujourd'hui, il y a un dénominateur commun dans les grands thèmes. Ce sont le retour de deux équipes professionnelles à Montréal, à Québec. On va parler du retour des Nordiques et aussi du retour des Expos. Mais avant de parler des Nordiques et des Expos, on va parler de l'équipe qui est encore là. C'est les Canadiens de Montréal qui terminent son calendrier préparatoire. Hier, c'était l'ouverture non officielle, si on peut dire ainsi, du centre Vidéotron, alors qu'il y avait le premier match de calibre LNH qui était disputé, un match préparatoire, certes, opposant les Canadiens aux Pingouins. Et les Canadiens n'ont pas déçu, ils n'ont pas gâché la fête puisqu'ils ont gagné 4 à 1, un texte de Guillaume Lefrançois dans la presse d'aujourd'hui dit « La présence de Régis Labeaume, un match inspiré de David Desharnais, une salle comble, une victoire du Canadien. Quand la visite annuelle de la LNH à Québec met aux prises l'équipe A du Canadien et l'équipe B des Pingouins, pas besoin de la boule de cristal la plus précise pour prédire à quel type de soirée on aura droit. Contre une opposition qui jouait sans Crosby, Malkin et Kessel, le tricolore a signé un gain sans grand éclat de 4 à 1 hier dans le premier match de la LNH disputé au centre Vidéotron. Pour l'occasion, 18 259 spectateurs ont pris d'assaut le nouvel amphithéâtre, dont le but avoué est d'attirer une équipe de la LNH. Les Go Habs Go et les montées de Piquet-Souban, enterrées par un mélange de huées et d'applaudissements, rappelaient qu'une partie des amateurs de hockey de la vieille capitale sont prêts à accueillir leur propre équipe. Des progrès pourraient être faits en ce sens dès aujourd'hui, avec la présentation du dossier d'expansion de Québec qui sera faite en marge de la rencontre des gouverneurs de la LNH. Pour ce qui est de la rencontre, Desharnais jouait dans son coin de pays, lui qui vient de Laurier Station, et ça a paru dès le début. On ne dit pas cela parce qu'il a été désigné pour faire la mise au jeu protocolaire avec le maire Labeaume en avant-match. Dès la 15e seconde, le numéro 51 a accepté une longue passe de Souban pour s'emmener en échappée. Le trio qu'il forme avec Fleischmann et Weiss allait connaître au moins deux autres présences menaçantes en zone adverse, mais sans pouvoir convertir ses chances. Cela dit, Tant que des harnais génèrent des occasions pour Fleischmann, il continue d'aider à décrocher un contrat. Le trio d'Alex Galchenyuk, lui, a pleinement profité de ces occasions. D'abord en première période, quand Semin a tiré vers Marc-André Fleury, Galchenyuk a tenté de frapper le retour au vol, mais c'est plutôt Christopher Le Temps, avec son gant, qui a poussé la rondelle dans le filet. Puis, au deuxième tiers, l'harceleur a mis la touche finale avec un savant échange de passes en avantage numérique. Eh bien, il y en a un qui est bien excité, je pense, pour un éventuel retour des Nordiques, et il ne s'en cache pas. C'est Philippe Quentin, qui est chroniqueur à la presse, et il dit dans l'édition d'aujourd'hui, du 29 septembre, « En attendant le retour des Nordiques. Dans le corridor longeant leur vestiaire, les Penguins de Pittsburgh attendent leur signal pour sauter sur la glace en vue de l'échauffement d'avant-match. Assis dans la suite bunker du centre Vidéotron, un salon privé doté d'un mur vitré permettant d'observer les joueurs, Régis Labeaume ne cache pas sa satisfaction. Pour les maniaques de hockey, c'est parfait. Le maire de Québec a raison d'être fier. Le nouvel amphithéâtre est une pure merveille. De l'extérieur, cette immense masse blanche se découpant sur le ciel de la capitale est franchement impressionnante. À l'intérieur, où, sans surprise, le bleu prédomine, tout rappelle que nous sommes dans un édifice du 21e siècle. Je suis bien fier de l'amphithéâtre, dit M. Labeaume, mais je suis encore plus content de l'avoir fait à ce prix-là. Pour moi, comme gestionnaire, c'est ma plus grande satisfaction. J'avais mis ma tête sur le bilot en disant qu'il ne coûterait pas plus que 400 millions. Au bout du compte, la facture est de 365 millions. Le groupe mis sur pied pour superviser les travaux a tenu la bride serrée. Aux commandes, on retrouvait Jean-Guy René, un ancien de la Société d'énergie de la baie James. On a été tough avec les entreprises, on les a mises en concurrence, ajoute le maire. Aujourd'hui, elles sont contentes d'avoir participé au projet. Le centre Vidéotron est un atout pour tout l'Est du Québec et renforce le pouvoir d'attraction de la capitale. Maintenant qu'il est construit, des gens me demandent pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, lance le maire. Quelque chose a changé en ville, on a monté d'une coche, on n'avait pas l'amphithéâtre et pour nous, ça signifiait beaucoup de ne pas l'avoir. C'est maintenant réglé. Regarde ce que le retour des Jets a fait pour l'ambiance à Winnipeg. Nous, notre amphithéâtre a cet effet-là, et pour commencer, et on verra pour le reste. Un texte de Kevin Dubé maintenant dans le journal de Québec, toujours sur le même grand thème des retours des Nordiques, hein, qui fait jaser dans le monde médiatique. C'est pratiquement ça qu'il y avait dans les médias aujourd'hui. Kevin Dubé dit « C'est une occasion pour les Franco. » Car Michel Therrien voit d'un bon œil l'éventuelle venue d'une équipe de la LNH à Québec, particulièrement pour les joueurs de la province. Pour le pilote du tricolore, les futurs Nordiques permettraient à plus de Québécois de travailler dans la LNH. Ce serait une occasion pour des francophones autant au niveau du personnel d'entraîneurs que de la gestion, a-t-il mentionné hier à quelques heures de la rencontre face aux Pingouins. Je crois également que ça créerait une rivalité saine entre deux équipes. Le hockey a changé, pour le mieux, et ça me surprendrait qu'on revoie un autre Vendredi Saint, ce qui est une bonne chose. Ce n'est pas là que la Ligue veut aller, et c'est tant mieux. Therrien reconnaît que Québec demeure une place particulière pour lui. Non seulement a-t-il évolué au tournoi international de hockey Pee-wee de Québec dans son jeune temps, mais il a également porté les couleurs des Remparts de Québec en 1980-1981, en plus d'une partie de la saison suivante. Par la suite, il a dirigé les Citadelles de Québec, alors le club-école du Canadien, de 1991 à 2001, et tout ça dans le bon vieux Colisée Pepsi. Therrien est donc bien placé pour apprécier la différence de monde qui existe entre l'ancien Colisée et le nouveau centre Vidéotron. C'est tellement gros et à l'intérieur, c'est très classe et vaste. Ce sont des installations de première classe. Natif de Saint-Léonard, Therrien a grandi en tant que partisan du CH. Il avoue toutefois avoir quelquefois triché lors de son passage avec les Remparts. J'allais voir des matchs des Nordiques. Je ne dirais pas que mon cœur y était à 100%, mais je suis toutefois revenu à mes bonnes vieilles amours par la suite. Je rappelle que c'est un texte de Kevin Dubé dans le Journal de Québec. Thank you. Et on parle maintenant d'un autre retour, celui des expos. On dit dans le journal de Montréal d'aujourd'hui que le baseball a franchi une autre étape vers un retour olympique. En fait, je me suis gouré. J'ai seulement lu le titre et j'ai cru que ça allait être un texte sur les expos. Mais en fait, on parle plutôt du retour de baseball, du baseball comme discipline aux Jeux olympiques. Mais à ma défense, c'est effectivement un thème courant et récurrent qui est le retour des expos.
Kevin, vous nous donnez de faux espoirs.
Mais de toute façon, si on va un petit peu plus loin dans les journaux, là, je suis convaincu qu'on va trouver un article qui traite du retour des expos parce que le maire Coderre ne lâche pas le morceau. Mais pour ce qui est des Olympiques, en fait, le baseball a fait un pas de plus vers un retour aux Jeux olympiques hier quand l'organisation de Tokyo 2020 a conservé la discipline parmi les sports susceptibles d'être intégrés à son programme. En plus du baseball, le Tokyo 2020 a proposé le karaté, le surf, le roller et l'escalade. Au contraire, les quilles et le squash ont été écartés, tout comme le kung-fu. Historiquement, le baseball avait été présenté une première fois aux Jeux olympiques d'été de 2012 en Suède. C'était toutefois à titre de sport de démonstration. De manière officielle, le passe-temps national des Américains a fait partie du programme olympique entre 1992 et 2008. Il faut rappeler que Cuba a remporté l'or en 1992, 1996 et 2004, tandis que les États-Unis avaient triomphé en 2000. C'était aux Jeux de Sydney. Vous avez déjà entendu sa voix, Christiane Campagnan est de retour au micro. Il me reste une petite nouvelle sportive à vous lire avant de lui céder, mais de manière bien temporaire, la parole, puisque je reste à ses côtés. Au tennis, Eugénie recule au 36e rang mondial, donc rien ne va plus pour la jeune prodige d'Outremont. Inactive à la suite d'une commotion cérébrale subie lors des internationaux des États-Unis, la Québécoise Eugénie Bouchard a glissé au 36e rang mondial hier. Lors de la semaine précédente, celle qu'on surnomme Jenny occupait la 26e place du classement de la WTA. Gagnante du tournoi de Tokyo, la Polonaise Agnieszka Radwanska est passée de la 13e à la 7e position. Le top 5 demeure inchangé avec Serena Williams, Simona Halep, Maria Sharapova, Petra Kvitova et Lucie Savarova.
Sur ce, on garde Kevin Breton avec nous puisqu'il vient nous faire sa visite hebdomadaire.
Ouais.
Il y a des visites quotidiennes
et
des visites hebdomadaires, comme beaucoup des j'allais dire des artisans, mais c'est une déformation d'un autre endroit.
On peut pas dire
mais de l'émission, des collaborateurs de l'émission. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez?
Ben oui, en fait, c'est ça, c'est l'heure de ma petite chronique où je traite d'un sujet chaud, disons, de l'actualité du handicap ou de l'accessibilité. Et puis, il y a une nouvelle qui a fait les manchettes, là, particulièrement virale sur les sites comme BuzzFeed, qui est celle d'un client avec un handicap qui a dû demander l'aide d'un employé d'un McDonald's pour pouvoir trancher, découper son repas et l'aider à le manger. Ça l'avait touché beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et pour une raison qui m'a peut-être un peu échappé. Je comprends que c'est un acte de compassion. Qui est fort admirable, mais j'étais un peu surpris de voir à quel point les gens ont aimé partager cette nouvelle-là. Et effectivement, sur la plateforme handicap.fr, il y a un autre chroniqueur qui remet en question cet acte de compassion-là.
Parce que quand même, de notre côté, on pourrait dire que c'est la moindre des choses.
C'est ça, effectivement. Puis c'est un peu dans cet ordre d'idées-là que l'article porte. Le titre, c'est « Il aide un client handicapé, un acte à ce point singulier ». Donc, un employé d'une grande chaîne de fast-food ferme sa caisse pour aller aider un client handicapé à couper son repas. Ça mérite au moins une photo postée par une cliente, Destiny Careno, sur son compte Facebook. Depuis, cette scène qui se déroule dans un restaurant de Chicago fait le buzz sur le net. 400 000 vues en quelques heures et des posts qui pullulent. Il salue avec une débauche de bons sentiments la bienveillance de cet employé qui, il est vrai, a abandonné son poste en plein rush. Un geste qui fait chaud au cœur, titre le site de RTL. Ce qui interroge, dans ce déluge d'avis sirupeux, c'est que l'on trouve à ce point étonnant de faire preuve de solidarité, notamment à l'égard d'une personne handicapée. Lorsqu'un geste aussi naturel est perçu par des centaines de milliers d'internautes comme un acte valeureux, il y a lieu de s'interroger sur notre capacité d'empathie. Il est vrai qu'en sortant du rang, l'employé risquait peut-être gros. On rappelle qu'en août 2015, cette fois-ci en France, un collaborateur de cette même chaîne, pour ne pas la nommer, McDonald's, avait été menacé de licenciement pour avoir offert à son repas à un SDF, un sans-abri. Au royaume du fast-food, où chaque geste est normé et cadencé, s'affranchir des consignes peut parfois ressembler à un acte de bravoure. En réalité, la seule question qu'il convient de se poser, c'est pourquoi aucun client n'a proposé son aide. Parmi les 400 000 personnes qui ont aimé la publication, prompt à faire preuve de compassion derrière le clavier, combien se sont levés lorsque le monsieur avait besoin d'aide? Sur un autre blog qui s'appelle The Squeaky Wheelchair, l'article est en anglais, donc j'ai dû le traduire. On vous en remercie. On en parle aussi et on dénonce un peu le phénomène de l'inspiration porn, la porno inspirante. Ouais, oui. Les personnes avec un handicap ne sont pas des personnes sans visage et sans nom. Parce qu'il faut bien rappeler que dans le cas du monsieur, on n'a jamais prononcé son nom, seulement celui de la personne.
Non, le héros, c'est l'employé.
Effectivement. Donc, nous ne sommes pas des accommodations qui existent dans l'unique but d'inspirer les autres et de les faire sentir bien. Nous n'existons pas pour être des passifs récepteurs d'aide ou être le symbole de votre compassion. Et si le simple fait d'être à nos côtés vaut la création d'un article dans un journal, alors l'inclusion ou même la générosité est encore trop rare. Laissons savoir une bonne fois pour toutes que les personnes avec un handicap peuvent elles aussi aider. Donc, avant de partager cette publication, considérez ceci. Peut-être que l'homme handicapé voulait seulement manger son lunch. Peut-être que l'employé voulait seulement aider et ne percevait même pas son geste comme étant remarquable. Et considérez ceci. Quel monde magnifique en serait un dans lequel les personnes handicapées peuvent vivre de manière intégrale, dans la dignité, et sentir qu'elles appartiennent à la société en tout temps et pas juste quand les médias ont besoin d'une histoire touchante. Nous ne sommes pas des spécimens, nous ne sommes pas de la chair à canon pour servir votre moralité. Ouf!
Oui, c'est...
Les mots sont choisis, disons, de manière un peu virulente. Mais je peux comprendre parce que moi aussi, j'avais ressenti le même malaise lorsque cette nouvelle-là avait sorti. Un petit peu comme lorsque le sympathique spectateur de Chiaga avait fait du body surfing et que ça avait enflammé la toile et qu'on avait perçu ça comme un acte de générosité et de bravoure incommensurable.
Et nous voici maintenant rendus à faire le tour des quotidiens régionaux. On va débuter ça avec le journal Le Droit d'Ottawa, puisque on trouve en une la place des festivals réduite à un projet pilote plombé par la CCN. Ensuite, sécurité dans les rues d'Ottawa, les résidents de plus en plus inquiets. Chronique Inévitable Destin, on nous annonce ainsi la chronique de Denis Graton. Et débat sur les thèmes internationaux, autres débats, mêmes enjeux. Et on revient un peu sur la question fédérale dans la chronique et des élections avec Patrick Duquette. Il nous dit « c'est payant la peur ». On reproche à Stephen Harper de jouer sur la peur pour gagner des votes. Le problème, c'est que ça marche. Le chef conservateur se plaît à le répéter dans ses points de presse et lors des débats des chefs. Le monde est instable, voire hostile et dangereux. Et quand il le dit, c'est avec une telle conviction qu'on a envie de baisser la tête pour se protéger des bombes qu'on entend déjà siffler autour de nous. Nul n'est plus habile que lui pour décliner la peur sous toutes ses facettes. La peur des terroristes, la peur de la récession, la peur des déficits, la peur des hausses de taxes, la peur des pertes d'emploi. Mais perdez pas votre emploi, par exemple, parce qu'il va mettre le chômage et les assurés de l'assurance-emploi à vos trousses. Lors des échanges cacophoniques sur la clarté référendaire au débat des chefs, Harper a lui-même joué sur la peur des interminables débats constitutionnels. Veut-on vraiment d'un Parlement qui radote sur ces questions, a-t-il lancé au-dessus de la mêlée? Harper fait du millage dans les sondages ces jours-ci en jouant sur la peur de l'autre avec le NICAB, une affaire qu'on sait maintenant habilement arrangée par ses stratèges pour qu'elle détonne en pleine campagne électorale. Au débat des chefs, on a demandé à Harper s'il fallait sanctionner l'Arabie saoudite, un pays qui s'apprête à décapiter puis a crucifié un jeune homme de 21 ans ayant participé aux manifestations du printemps arabe alors qu'il n'avait que 17 ans. En guise de réponse, Harper a joué sur la peur de perdre des emplois en Ontario. Il a rappelé qu'une usine de London a décroché un contrat de 14 milliards pour vendre des armes à l'Arabie saoudite. L'entente procure de l'emploi à 3 000 travailleurs dans cette région. Alors, des sanctions? Ce n'est pas juste de punir les travailleurs de London pour ça, a répondu M. Harper. Comme quoi, l'indignation des politiciens peut s'avérer à géométrie variable, surtout quand des emplois sont en jeu dans la très convoitée province de l'Ontario. Au risque de paraître cynique, je prétends que l'espoir n'est pas aussi payant que la peur en politique canadienne, pas ces jours-ci. À preuve, quel dossier vient de faire bouger l'audimat des sondages au profit des conservateurs et du Bloc québécois? L'UNICAB. Une affaire de rien du tout, une anecdote qui est en train de devenir un symbole parce qu'on s'en sert pour jouer sur la vieille peur du survenant, cet étranger qui viendrait saboter nos belles valeurs canadiennes. La peur, toujours la peur. Fin stratège, Harper sait très bien qu'en exploitant le côté sombre, c'est très bien ce qu'il fait en exploitant le côté sombre de la conscience collective. Et une majorité de Canadiens appuie sa mission militaire en Irak et en Syrie, tout comme sa position sur l'accueil des réfugiés syriens, confirmé encore hier un sondage Angus Reid. Oui, une majorité de Canadiens trouvent que le Canada a perdu du lustre sur la scène internationale sous la décennie au pouvoir des conservateurs. Mais curieusement, ils n'en tiennent pas rigueur à Stephen Harper. Après le même sondage, c'est Harper plus que Mulcair et Trudeau que les Canadiens veulent avoir comme représentants à l'ONU, de même qu'aux sommets internationaux portant sur le terrorisme, la sécurité ou l'économie. Harper l'homme fort dans un monde tourmenté. C'est à se demander si les stratèges conservateurs ont fait le bon choix en développant l'essentiel de leur campagne électorale sur le thème de l'économie plutôt que sur la politique étrangère. Aussi, rapidement, du côté de l'Outaouais, l'expertise en dons d'organes maintenue, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais fait marche arrière et annule l'abolition de 2 postes d'infirmières responsables du programme de dons d'organes en Outaouais, annonce la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. De passage à Gatineau, la présidente de la FIC, Régine Laurent, s'est réjouie de cette victoire pour son syndicat. En février, la FIC avait décrié l'abolition de ces postes et affirmait craindre que des décès évitables surviennent dans la région après la perte de ces infirmières. « Je pense que c'est la mobilisation qui a fait reculer le CISSO », a déclaré Mme Laurent en conférence de presse. Pour eux, je ne crois pas que c'était le nombre de postes perdus qui posait problème, mais surtout la perte d'expertise. Selon la FIC, l'expertise acquise par ces 2 infirmières de l'Outaouais en matière de dons d'organes et de tissus est reconnue à travers le Québec. Ces 2 travailleuses de la santé ont pu reprendre leurs fonctions le 21 septembre, ajoute la co-porte-parole de la FIC en Outaouais, Mme Lynn Plante. À la une du Soleil de Québec, 1 an pour trouver 6,5 millions, avec le tiers de son financement privé amassé, l'équipe du futur théâtre Le Diamant cherche maintenant le reste dans les poches des mécènes. Des airs de répétition générale pour la partie du Canadien au Nouveau Colisée. Et Robert Bourassa, de La Route, n'est-ce pas? Des voix réservées et presque respectées, et kidnappées par leurs parents et retrouvées en Ontario. Alors oui, en effet, Le Diamant de Robert Lepage, sous la plume de Valérie Gaudreau, le tiers des dons amassés. La campagne de financement privé pour le théâtre Le Diamant a pour l'instant 3,5 millions dans ses coffres, soit le tiers des 10 millions espérés au total. 3 grands donateurs versent ce montant considéré comme un levier pour le défi d'aller chercher un autre 6,5 millions dans les poches des mécènes. Bell est le plus grand contributeur de ces 2 annoncés en conférence de presse hier avec un don de 2 millions. BMO Groupe Financier verse 1 million. Et le Mouvement des Jardins, 500 000 à ce projet de théâtre de 600 places de la compagnie de Robert Lepage, Ex Machina. On tenait à étaler ça aujourd'hui pour dire que ça va bien, la campagne. On a espoir, évidemment, d'accumuler les 10 millions, a dit M. Lepage, en marge d'une conférence de presse. La ministre de la Culture, Hélène David, et le maire de Québec, Régis Labeaume, étaient de la partie. Cette vaste campagne auprès du privé pour ce théâtre de l'ancien YMCA et de la place Diouville a été annoncée en 2012, puis lancé officiellement en janvier 2014. C'était avant que le projet ne soit compromis au printemps... Le gouvernement Couillard a alors remis en question une subvention annoncée de 30 millions sur un budget total de 54 millions. Les tergiversations autour du financement public ont obligé à relancer le tout, a reconnu Robert Lepage hier. Comme on a tout arrêté pendant 6 mois, il a fallu redémarrer la machine et retourner voir tout le monde, mais les gens sont assez positifs. Les trois entreprises annoncées hier, BMO, Desjardins et Bell, ne sont toutefois pas vraiment des surprises puisque le président de BMO Groupe Financier, Jacques Ménard, et la présidente et chef de direction du mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, co-président cette campagne privée. Hier, M. Ménard s'est dit confiant pour les 2/3 de l'objectif encore à trouver, lui qui s'était gardé une petite gêne avant d'approcher les philanthropes pendant les mois d'incertitude autour du financement du Diamant. On a attendu que les étoiles s'alignent suffisamment pour qu'on puisse faire l'annonce et lancer plus formellement le processus d'appel à la communauté, ce qui a commencé aujourd'hui. Les 3,5 millions accumulés inciteront, dit-il, d'autres entreprises à donner. Et ce, même si M. Ménard reconnaît que les campagnes pour des projets culturels sont plus difficiles que dans d'autres domaines. Le secteur culturel est sans doute au niveau philanthropique le secteur qui est le plus difficile à percer, à Montréal comme à Québec, a-t-il noté. L'horizon pour l'ouverture du Diamant est toujours 2017, selon Robert Lepage. La campagne de 10 millions pourrait durer encore un an. Le concours d'architecture a été lancé et 4 propositions ont été retenues sur 17 reçues, a révélé le metteur en scène hier. Le maire de Québec, Régis Labeaume, a assuré ne pas être inquiet pour la capacité à aller chercher 6,5 millions supplémentaires. « C'est très encourageant, les choses vont bon train. On va finir par commencer à construire un jour », a-t-il dit, en insistant sur la revitalisation dans le secteur de la place Youville. D'un point de vue urbanistique, ça n'a aucun bon sens d'avoir cette bâtisse très belle en plein milieu de la ville et d'être aussi délabrée. On ne peut pas accepter ça. Du côté du quotidien de Saguenay, vice de procédure dans le dossier d'Yves Martin, la liberté réclamée et en quête d'inspiration, le maire ira à Tunis en octobre. En effet, le maire Jean Tremblay s'envolera vers la Tunisie pour s'inspirer, 6 mois après avoir participé en Louisiane à une rencontre de l'Association internationale des maires francophones. Le maire de Saguenay assistera à l'Assemblée générale de cette organisation en octobre à Tunis. Le renforcement de l'autonomie des collectivités locales, la dynamisation de l'économie des territoires et la promotion du rôle de la femme élue font partie des sujets abordés à cette rencontre, dont le thème principal est l'innovation. Une semaine après avoir annoncé son retrait de la vie municipale à l'issue du présent mandat, Jean Tremblay n'a pas moins de motivation. Au contraire, il se sent mieux placé pour mener de nouveaux projets. « Je me sens plus libre qu'avant. Mon seul but est que la ville grandisse, mais maintenant, personne ne peut me reprocher de faire tel ou tel projet pour me faire réélire », a terminé M. Tremblay. Toujours au Saguenay, scission des activités chez Alcoa. Les installations canadiennes d'Alcoa ne devraient pas souffrir de la scission en 2 entreprises distinctes, une qui se concentrera sur la production d'aluminium et une autre sur les produits fabriqués pour les industries automobiles et aéronautiques. La multinationale a annoncé lundi que le nom Alcoa restera attaché à la compagnie de métaux dont les activités d'extraction, de raffinage et de production d'aluminium sont réparties dans 64 usines à travers le monde. Pour ce qui est de la une de la Tribune, c'est un cas un peu spécial ce matin puisqu'il n'y a pas de manchette. Il y a la photographie d'un employé qui prend sa retraite. On dit « Bonne retraite, Reynald ». On nous annonce dans le petit coin là, que c'est la fête des vendanges et que l'affluence n'est pas très bonne. Mais dans les pages, on nous parle en effet de cet employé. C'était intéressant dans cette époque où le papier commence à disparaître. On fait un drôle de jeu de mots, disons, pour le titre. « Au bout du rouleau, mais en pleine forme » puisque le précis Reynald Pouliot quitte après 48 ans à la Tribune. M. Pouliot prend sa retraite aujourd'hui, mardi, après presque un demi-siècle de travail de nuit pour imprimer le quotidien que vous tenez entre vos mains. Tiens, la caricature du quotidien. Au début, on a un monsieur tout souriant, tout éveillé devant sa télé qui dit « Une campagne de 78 jours ». Et on a le même monsieur complètement affaissé et endormi devant une télé qui dit « Il ne reste plus que 20 jours ». Alors, on se retrouve après la pause, cette fois-ci avec le volet culturel et quelques opinions aux voix de service en ce 29 septembre.
Les voies de service avec Christiane Compagna.
Je faisais signe à Mathieu, oui, tu peux allumer le micro, mais non, non, il valsait en régie. On ne peut pas lui reprocher, il valsait. Nous en sommes au volet culturel de ces voies publiques pour ce le 29 septembre et je vais consacrer une bonne partie parce que c'est un article assez long, la chronique de Marc Cassifi qui parle de diversité culturelle en culture, le temps de dire les choses. La médecin spécialiste du nouveau film de Guy Edouin, elle, le très inspiré Ville-Marie, est métisse. Ça devrait être un détail, ça ne l'est pas. À la télévision et au cinéma québécois, les personnages de médecins sont rarement interprétés par des acteurs dits de la diversité. On se souvient de France Zoba dans le rôle de Lucie Baptiste dans L'An 50, c'est l'exception qui confirme la règle. Le problème du manque de diversité ethnoculturelle au petit et au grand écran, comme du reste au théâtre et dans la plupart des autres disciplines artistiques, est récurrent au Québec. L'ethnologue de formation Jérôme Pruneau, directeur général de Diversité artistique Montréal, s'intéresse à la question depuis quelque temps. Il y a consacré un essai « Il est temps de dire les choses » à paraître le 15 octobre aux éditions Dialogue Nord-Sud. Depuis 3 ans, Jérôme Pruneau a accompagné plus de 250 artistes dits de la diversité. C'est ainsi qu'il les désigne dans leur cheminement professionnel. Un chemin de croix le plus souvent semé d'embûches et de découragement devant le peu d'occasions de pratiquer leur métier. Son coup de gueule se veut à la fois un état des lieux de la diversité et un appel au débat dans le milieu culturel québécois. Très peu d'artistes dits de la diversité sont visibles ou présents. On les a oubliés, mis de côté, jusqu'à les ignorer carrément, constate l'auteur, en soulignant que cette différence s'apparente à une sorte d'ostracisme dénié, insidieux, ineffable. Cette minorité visible permet, selon lui, à certains commentateurs de se donner bonne conscience grâce à quelques déculpabilisateurs de service. Jérôme Pruneau n'a pas tort. Il a aussi raison de rappeler que l'ensemble des visages que l'on voit sur scène au cinéma et en particulier à la télévision n'est pas représentatif ni de Montréal ni du Québec. Il regrette notamment que pour incarner un membre de gang de rue, assurément, on prend un latino tatoué ou un noir. Idem, dit-il, pour un personnage de femme de ménage ou de vendeuse de drogue. Latina ou noir aussi, parfois d'origine maghrébine. Il y a très peu de rôles principaux, moins de 5% à la télévision et au théâtre, selon une enquête de mon collègue Hugo Pilon-Larose publiée en janvier, pour les acteurs de minorités visibles. Il est impossible de se sentir inclus en tant que minorité visible et personne immigrante lorsque les productions artistiques et culturelles ne contiennent ni des voix ni des visages de personnes d'origine diverse, conclut Jérôme Pruneau, qui est lui-même d'origine française. On aura beau prétendre que notre télévision s'offre en miroir de notre société, l'image qu'elle nous renvoie ne reflète pas la réalité multiethnique. Lorsqu'elle ne fait pas abstraction de la moitié de la population montréalaise issue de l'immigration, notre télé la réduit au cliché. Jérôme Pruneau, de son propre aveu, n'est pas tendre envers le milieu culturel québécois pour lequel il manifeste pourtant beaucoup d'affection. Qui aime bien châtie bien. Il rappelle la controverse du blackface au rideau vert l'an dernier qui avait été mise en lumière par DAM, l'organisme qu'il dirige. Afin de dénoncer l'excès d'ignorance et la bêtise de certains commentateurs, souvent les mêmes, qui ont assimilé cette pratique méprisable au fondement historique incontestable à une quelconque moquerie d'un groupe social cible comme les Rousses, les Moustachus, les Vieux, etc. Ancien impresario et producteur de musique, Jérôme Pruneau s'interroge aussi sur le manque de diversité à la disque. Sur les 5 plus récents galas de notre industrie musicale, constate-t-il, aucun artiste dit de la diversité n'a reçu l'un des 57 prix attribués. La disque semble bien éloignée d'une réflexion de fond sur cette question de l'inclusion systématique, regrette-t-il. La disque n'est pas, tant s'en faut, le seul organisme culturel dans le viseur de l'auteur. La quasi-totalité des comités de programmation et de sélection, des jurys, des associations professionnelles et des conseils d'administration d'institutions culturelles sont la plupart du temps exempts de diversité, remarque-t-il. L'auteur a fait le compte. Il n'y avait pas, au moment de la rédaction de son essai, la moindre représentation ethnoculturelle parmi les dirigeants des conseils d'administration d'une dizaine d'organismes culturels québécois, dont la DISC, le Quartier des spectacles et l'Union des artistes, malgré 12 800 membres et les efforts soutenus de sa présidente, Sophie Préjean. Jérôme Pruneau ne se contente pas de montrer où le bât blesse. Il fait aussi état d'initiatives heureuses et d'exemples à suivre, comme celui du Cirque du Soleil, dont le quartier général est à Montréal et où une cinquantaine de langues sont parlées. Il propose par ailleurs différentes mesures, telles que des quotas de représentation de candidats issus de la diversité dans les conseils d'administration d'organismes culturels. Le regard qu'il pose peut parfois sembler fleur bleue, voire politiquement correct. Il brosse un portrait de la situation qui relève parfois de l'évidence, mais qui a l'avantage et la qualité d'être frais et franc, écrit Marc Essivy. Son essai ne fera pas l'unanimité. Je ne suis pas d'accord avec lui, par exemple, lorsqu'il regrette l'embauche de Québécois d'origine haïtienne plutôt que d'Haïtiens de première génération pour jouer des personnages qui parlent le créole. Il me semble qu'il y a là une interprétation plutôt restrictive de la diversité. J'en veux pour preuve le personnage haïtien du nouveau film de Philippe Falardeau, Guy Bord s'en va en guerre, interprété par un jeune Montréalais d'origine haïtienne, l'excellent Irden Exantus, qui a dû apprendre l'accent haïtien et le créole pour le rôle. Simple fait que ce rôle existe, comme celui de la médecin spécialiste de Ville-Marie, est un pas dans la bonne direction. Avec Il est temps de dire les choses, Jérôme Pruneau a le mérite d'engager la discussion. À nous tous, désormais, de la poursuivre. Dans Le Devoir, c'était d'ailleurs à la une, mais je vous ai dit ça, ça fait déjà presque 2h30. on parle du théâtre de Denise Pelletier, entre le désir et la raison. Claude Poisson lance une première saison à son image en montant « On ne badine pas avec l'amour ». Il est en poste depuis un an, c'est un article de Marie Labrec, soit dit en passant. Il est en poste depuis un an, mais cette saison-ci est la première qui porte vraiment la griffe du nouveau directeur artistique du théâtre de Denise Pelletier. Claude Poisson annonce ses couleurs en plongeant dans un répertoire qu'il connaît bien, le théâtre romantique, et avec un auteur qu'il visite pour une troisième fois, Alfred de Musset. Poisson s'est efforcé de gommer tout élément trop poussiéreux de sa production. Il mise sur un jeu moderne chez sa belle distribution. Il a aussi choisi de présenter ce texte un peu inclassable qui marie le drame romantique à des figures secondaires plus légères et comiques dans un espace métaphorique, une espèce de poème visuel. Le créateur à l'éternelle jeunesse qui a œuvré avec tant de nouveaux auteurs ne croit pas devoir s'adapter à l'âge de son public cible étudiant. « Je ne monte pas, on ne badine pas avec l'amour pour les adolescents. Je monte la pièce. Pour moi, il n'y a aucune concession à ce niveau-là. Comme metteur en scène ou comme directeur, à ceux qui lui soumettent des projets exactement pour son public ado, il répond que ce n'est pas son critère premier. C'est plutôt « qu'avez-vous à dire? » Claude Poisson refuse de se fermer des portes. Il est encore en train d'évaluer son nouveau rôle, de mesurer l'ampleur de l'immense défi consistant à attirer le grand public tout en conservant et même accroissant les clientèles aux intérêts souvent différents du secondaire et du cégep. Son ambition est de présenter une création par an, chose faite dès l'hiver prochain avec l'Orangerie, tout en élargissant la définition qu'on se fait du répertoire, étendre les limites temporelles du catalogue potentiel. « J'ai beaucoup de belles envies, » dit-il. Je vais continuer à foncer pour aller au bout de certains rêves en sachant très bien que je ne peux pas les réaliser en un temps record dans un Québec qui a encore de la misère avec son aide à la culture. Bref, le directeur est forcé de balancer lui aussi entre le cœur et la raison, entre le désir et la réalité. Isabelle Verge de l'agence Coemi revient sur le concert de Stromae, Stromae le conquérant. Le premier des deux spectacles de Stromae au Centre Bell lundi était particulièrement festif. Les Montréalais ont eu droit au meilleur des albums Cheese et Racine carrée. De la danse, des hits à profusion et un charisme fou d'Opération Charme a fonctionné. Dès les premières notes de Ta fête, Stromae a ravi un public, il faut le dire, déjà conquis. Quelques pas de danse et tout le monde au Centre Bell avait les bras levés, suivant le rythme électronique qui est propre aux chanteurs belges. Ses fans l'attendaient et de pied ferme. Après l'annulation de sa participation au festival Oshiaga un peu plus tôt cet été pour des raisons de santé, l'excitation était palpable au Centre Bell. Ses fans ont assurément été charmés par la bombe d'énergie qu'est Stromae. Il se devait d'être en forme étant donné qu'il a choisi Montréal pour faire la captation vidéo du spectacle. Celui qui a vendu plus de 3 millions d'albums aime bien s'adresser au public et c'est ce qu'il a fait, donnant avec humour les leçons de Stromae. Les Montréalais ont eu droit au numéro 26, celle du piano, sur la chanson « Tous les mêmes ». Le parterre s'est déchaîné au rythme de « Ave Césaria » et « Sommeil » et a chaleureusement applaudi après la pièce « Cancer » qui traite du cancer, reprenant sensiblement le même visuel que son vidéoclip dévoilé il y a 2 semaines. Quant à la chanson « Formidable », c'est avec les lumières sur le public que Stromae a décidé de la chanter. Fidèle à son habitude, il aurait pu recevoir un prix d'interprétation pour sa performance. La pièce « Alors on danse » qu'il a révélée en 2009 est arrivée en fin de spectacle sous un tollé d'applaudissements et il a terminé avec la très populaire « Papa Outé ».
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, oh bébé. Oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier.
Alors, fallait bien entendre un petit peu hein, après avoir parlé de ce spectacle. Je sais pas s'il y avait pas trop le mot formidable dans les titres ce matin. Les journalistes commencent à en revenir de celle-là, de qualifier les spectacles de Stromae de formidable. Et maintenant, ben, quelques opinions pour terminer cette édition du 29 septembre des Voix de service. Un texte paru dans la presse, dans la section débat, de Christiane Berthiaume. L'auteur a été porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, de l'UNICEF, et tout récemment de l'Organisation internationale pour l'immigration. Elle dit « Il ne faut pas avoir peur des migrants. Il est prouvé que l'accueil de migrants change favorablement une société donnée. De toutes les crises que le monde a connues depuis 25 ans, jamais une situation aussi complexe que celle de l'afflux des migrants en Europe n'aura trouvé si peu ou de si mauvaises réponses. Lorsque la crise des Grands Lacs a éclaté en 1994 et que c'est par des milliers que les Rwandais fuyaient vers les pays voisins, nous étions prêts et organisés pour répondre aux besoins humanitaires d'un afflux de 2 millions de réfugiés en l'espace de quelques semaines. Rien à voir avec les quelques 488 000 réfugiés et migrants qui sont arrivés en Europe depuis janvier. La grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'il y avait à l'époque une véritable réponse humanitaire. Cela fait des mois que les agences humanitaires onusiennes présentes au Liban, en Jordanie et en Turquie sonnent l'alarme auprès des pays donateurs. Et faute de moyens, le Programme alimentaire mondial a interrompu sa distribution d'aide aux réfugiés syriens qui vivent en dehors des camps en Jordanie et a réduit de moitié celle prévue pour les réfugiés dans les camps. On a laissé la situation des boat people en Méditerranée se détériorer depuis 2013 et on continue à le faire. C'est le chaos le plus total. Il faudrait pourtant réagir avant qu'il ne soit trop tard, car nous sommes entrés dans une période dangereuse où le discours sur la migration est devenu hautement toxique, pour ne pas dire complètement hystérique. Les dirigeants européens, tétanisés par l'extrême droite, tiennent des discours anti-migrants à visée électorale. Or, les études montrent que la migration est bénéfique à l'économie. Mais étrangement, la migration est un des secteurs où les gouvernements écoutent le moins la recherche. Les peurs sont compréhensibles. Peur de perdre son identité et son travail et peur de l'insécurité. Mais où sont les dirigeants qui combattent ces peurs? Non, les migrants ne viennent pas prendre le travail des nationaux. Le problème du chômage en Europe est structurel face à la compétition mondiale. Ils viennent plutôt faire le travail que les nationaux ne veulent plus faire. Non, ils ne viennent pas pour bénéficier des avantages sociaux. On ne versons pas dans l'angélisme, dit-elle, car certains le font, mais pas plus que les nationaux. Ils viennent pour travailler. Selon l'OCDE, les migrants donnent 4 400 $ de plus par famille que ce qu'ils reçoivent de la part des gouvernements. Ils renvoient chaque année dans leur pays d'origine 450 milliards de dollars, selon la Banque mondiale, pour mettre de la nourriture sur la table, envoyer les enfants à l'école et payer pour les soins de santé de leur famille. C'est 3 fois l'aide au développement annuel. La migration est un phénomène de notre temps et nous allons de plus en plus avoir besoin les uns des autres. La population de l'hémisphère nord étant vieillissante et celle du sud jeune. Or, ces jeunes migrants vont travailler plus longtemps que les nationaux vieillissants, payer plus d'impôts pendant plus longtemps et avoir moins besoin de soins de santé. Elle termine son texte en disant « Il faut des campagnes de sensibilisation non seulement auprès de l'opinion publique, mais aussi auprès des migrants pour qu'ils comprennent qu'ils viennent vivre dans un pays qui n'a pas nécessairement les mêmes valeurs, la même culture et qu'ils doivent l'accepter. Tout cela est possible avec du courage politique, une denrée qui se fait malheureusement rare par les temps qui courent. Et je termine avec quelques extraits d'un texte d'opinion de Marc Demers, maire de Laval, qui nous explique pourquoi je suis contre l'oléoduc Énergie Est. Je suis contre le projet de l'oléoduc parce qu'il représente un risque déraisonnable pour la sécurité, la santé et le bien-être des personnes que je représente. C'est ce que je ferai valoir aujourd'hui à la Commission de l'environnement de la communauté urbaine de Montréal. Plusieurs l'affirment, mais je n'ai pas l'intention de les contredire. Laval s'est développé en fonction de la culture de l'automobile. Cependant, il est également vrai d'affirmer que le temps est venu pour Laval d'évoluer vers de nouvelles orientations inspirées par le développement durable. Et les énergies non renouvelables, comme le pétrole, ne font pas partie de ces orientations. D'ailleurs, nous savons tous que l'usage du pétrole impose à l'environnement une pression que la planète ne peut plus supporter. C'est un constat connu et compris par la vaste majorité de la population. Et à Laval, nous avons également compris que l'heure n'est plus au constat ou aux bonnes intentions. Le temps est venu d'agir et de prendre des décisions courageuses. Le maire de Laval dit plus loin, « Plusieurs l'affirment et je n'ai toujours pas l'intention de les contredire. L'automobile fait encore partie de nos modes de vie. D'ailleurs, la solution au problème qui nous préoccupe aujourd'hui n'est probablement pas de bannir d'emblée le pétrole. Par contre, il ne s'agit pas non plus de rester silencieux ou inerte devant une menace à notre sécurité. Il faut agir maintenant pour renverser la peur. J'affirme donc haut et fort que refuser d'ouvrir les vannes à ce projet aussi risqué que néfaste est la seule position que je suis en mesure de défendre. » Je trouve intéressante l'utilisation du mot « sécurité » puisqu'on a vu avec le texte de M. Duquette du droit que quand on parle de sécurité ou de danger, là, tout d'un coup, c'est populaire auprès de l'électorat. Alors peut-être qu'en environnement, il faudrait parler de notre sécurité puisque c'est un sujet qui fonctionne. Alors voilà, on arrive ainsi au bout de cette édition du 29 septembre de l'émission « Les voix de service ». Demain, Chloé Clotilde sera de retour ici. J'ai eu une pensée pour une Chloé, j'imagine. Et ben, je laisse vos oreilles au micro de
Kevin
Breton qui vous fera...
Je vais vous flatter les oreilles avec le bulletin du handicap.
Voilà, exactement, dans quelques instants. Bonne journée tout le monde.
Bonjour, je suis Gérald de Cousineau, auteur biographe au regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix.
Canal M, pour voir autrement.
Le bulletin du handicap. Bonjour à vous tous, mon nom est Kevin Breton et voici les manchettes en ce mardi 29 septembre 2015. Les chantiers, l'enfer des personnes à mobilité réduite à Montréal. Le comité des usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille invite les usagers en santé et services sociaux à s'informer de leurs droits. L'Everest bientôt interdit aux personnes handicapées et personnes âgées. Et une journée d'initiation au sport pour les personnes aveugles et malvoyantes. Les automobilistes ne sont pas les seuls à subir les conséquences des multiples travaux routiers. Un des organismes de défense des droits des personnes handicapées déclare avoir reçu trois fois plus de plaintes cette année qu'en 2014. La présidente du RAPLIC, le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, Linda Gauthier, a affirmé au Journal de Montréal « Cet été, on a eu au moins un appel par jour concernant l'accessibilité des rues en travaux, alors que l'an dernier, c'était 2 à 3 appels par mois. En 2014, le RAPLIC dit avoir reçu une trentaine de plaintes, alors que depuis avril et le début de la saison des travaux, au-delà d'une centaine de personnes se sont plaintes de l'aménagement des rues aux abords d'un chantier. Entrave à la circulation mal annoncée, manque de rampe d'accès, tuyaux excavés, infranchissables ou détours inaccessibles, la liste des obstacles pour les personnes en fauteuil roulant est longue, confirme Laurent Morissette, 32 ans, et atteint d'une paralysie cérébrale depuis sa naissance. Il explique, Les pentes et descentes des tuyaux recouverts d'asphalte sont souvent très abruptes et pour pallier au manque de rampe, ils mettent une simple planche de bois. Mais moi, avec mon fauteuil qui pèse 600 livres, avec M. Morissette à l'intérieur, ça prend un équipement spécial, hors quoi la planche pourrait céder. Un problème qui n'est pas nouveau selon Laurence Parent, qui se déplace également fauteuil roulant et qui prépare un doctorat sur la mobilité des personnes handicapées. Elle dit « Ça a toujours été comme ça, c'est juste que cette année, il y a encore plus de travaux, alors c'est donc plus compliqué de circuler. » Parce que les travaux sont rarement annoncés à l'avance, Francine Archambault, qui circule en fauteuil électrique depuis 20 ans, doit sans cesse faire des demi-tours. Madame Archambault témoigne « Quand c'est possible, je préfère carrément rouler sur la route, car faire toujours des détours, ça prend du temps. » Mais en plus de la perte du temps, certains détours mènent à des trottoirs inaccessibles, c'est-à-dire qui ne sont pas au niveau du sol. Madame Parent ajoute pour sa part « Récemment, j'ai dû rouler sur un chantier et me faufiler entre les camions. » Face au nombre croissant de plaintes et à l'urgence de certains cas, le RAPLIC entreprend des démarches auprès du 3-1 tout en informant le directeur des travaux publics. Madame Gauthier, qui dit recevoir une bonne écoute des services municipaux, ajoute « On a eu un cas où les travaux étaient juste en bas de l'immeuble d'une plaignante qui n'a pas pu sortir de chez elle pendant 2 jours, donc il faut agir vite. À la Ville, on se dit sensible à la cause et confirme qu'il y a place à amélioration. Malgré plusieurs mesures mises en place par l'administration, nous convenons que les entrepreneurs généraux responsables des chantiers devraient être sensibilisés davantage à l'importance de ces enjeux, confirme Philippe Sabourin, qui souligne du même coup que plusieurs aménagements de signalisation, de rampes amovibles et de corridors sont exigés par la Ville. C'est un texte signé Camille Gaillard pour le Journal de Montréal. Cette semaine, donc du 25 septembre au 2 octobre, se déroule la Semaine des droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Le comité des usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille en profite pour informer ses membres de ses droits en la matière. Le président du comité en question, Richard Lavigne, dit « Les usagers ont des droits reconnus par la loi et les comités des usagers sont là pour en faire la promotion. C'est notre rôle. » Il poursuit en affirmant « Nous profitons de cette semaine pour inviter les usagers de l'Institut Nazareth et Louis Braille et ceux de l'ensemble du territoire à s'informer sur leurs droits pour mieux les faire respecter. Le regroupement provincial des comités des usagers qui organise la semaine à l'échelle nationale a retenu cette année comme thème le droit de consentir à des soins ou de les refuser, qu'il est l'un des droits parmi tant d'autres des usagers. Madame Nathalie Prudhomme, porte-parole nationale de la semaine, explique le slogan de la campagne 2015 « Votre santé, votre décision ». Elle dit « Avec mon parcours comme survivante du cancer, malgré un diagnostic sévère, j'ai posé des questions, je me suis informée pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Nous avons notre mot à dire au sujet des soins et des traitements proposés, c'est un droit. » Monsieur Lavigne enchaîne pour sa part « Accepter ou refuser des soins n'est pas un privilège. » En effet, nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins tels que des examens, des prélèvements, des traitements ou des interventions quelconques. À la base de tout soin, traitement ou intervention s'impose un consentement libre et éclairé. Il s'agit, selon lui, d'un droit parmi d'autres que les usagers doivent connaître. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Semaine des droits des usagers qui se termine le 2 octobre, visitez le site internet rpcu.qc.ca. rpcu.qc.ca ou contactez le comité des usagers de l'INLB aux coordonnées qui sont inscrites sur le site. Le Népal étudie la possibilité d'interdire aux personnes sévèrement handicapées ou trop âgées d'escalader l'Everest ou d'autres sommets du pays, a indiqué lundi le chef de son département du tourisme. Cette proposition a été rendue publique 5 mois après la mort de 18 personnes dans le camp de base de l'Everest dans une avalanche déclenchée par un tremblement de terre. Le responsable a affirmé à l'association France Presse « Nous ne pensons pas que nous devrions accorder des permis d'escalade à des personnes qui ne peuvent pas voir ou marcher ou qui n'ont pas de bras. Il poursuit en soulignant escalader l'Everest n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une question de discrimination. Comment voulez-vous faire de l'escalade sans jambes? Quelqu'un va devoir le porter. Un Néo-Zélandais, Mark Inglis, qui avait perdu usage de ses deux jambes est devenu en 2006 le premier double amputé à atteindre le sommet de l'Everest. Un aveugle, l'Américain Eric Van Meyer, avait accompli le même exploit en 2001. Et le Japonais Yukiro Miura est à ce jour l'homme le plus âgé à avoir réussi l'exploit à l'âge de 80 ans. La suggestion de M. Carquier a été accueillie avec une grande réticence dans le secteur de l'alpinisme à Katmandou. L'experte en alpinisme Elisabeth Haley l'a entre autres qualifié d'injustifié. L'Association des sports pour aveugles du Manitoba a organisé une journée d'initiation à diverses activités physiques. Elle tente ainsi de permettre aux personnes atteintes de cécité de prendre part à des activités physiques. Le père de Tyler et Yann Saint-Vincent, deux jumeaux, l'un aveugle et l'autre borgne de naissance, veut que son fils puisse s'épanouir par l'entremise du sport. Kerry Saint-Vincent admet toutefois que ce n'est pas facile. Il explique: souvent, les enseignants ne savent pas comment s'y prendre avec eux et ils les envoient attendre dans une autre salle. Comme dit Tyler, ce n'est pas une classe d'éducation physique, c'est une classe d'attente. C'est ce qu'ils faisaient tout le temps, attendre. M. Saint-Vincent ajoute par la suite: en venant ici participer à des sports pour les personnes aveugles ou malvoyantes, nous pouvons essayer des activités diverses, ce qui leur permet enfin d'être actifs. Dans le cadre de cette journée d'initiation, l'association propose plusieurs activités aux participants, dont le goalball, l'escalade, la course et la gymnastique. Les organisateurs ont toutefois été déçus du peu de participation alors qu'ils sont environ 8000 avec un problème de cécité dans la province, selon l'Institut national canadien pour les aveugles. Plusieurs personnes perdent la vue en vieillissant et certains d'entre eux ne savent pas qu'il y a encore des activités à leur portée, d'expliquer Katie Deray-Ovanchuk, directrice générale de l'Association des sports pour aveugles du Manitoba. C'est un reportage de Samuel Rancourt pour Radio-Canada. Donc, c'est tout pour le bulletin du handicap aujourd'hui. Je rappelle que les organismes intéressés peuvent faire parvenir leur communiqué à canalem@vusevoix.com. Merci beaucoup et à demain.